Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Souvent, celles et ceux qui ne fréquentent que de loin ce beau métier de l'information s'étonnent lorsqu'ils apprennent que bon nombre de grands titres, télé, radio, journaux, ont dans leur tiroir prêts à être dégainés des nécrologies, des papiers retraçant le parcours des personnalités importantes écrits parfois bien avant leur mort et qu'il n'y a plus qu'à réactualiser une fois la faucheuse passée. Il est rare par contre que ces mêmes personnalités puissent lire dans la presse ces nécros, comme on les appelle, de leur vivant. Mais c'est arrivé tout récemment à Bernard Tapie, précisément l'ancienne figure emblématique des années 80-90 qui se bat depuis quelques années déjà avec la maladie et qui a pu lire donc suite à un bug sur le site de nos confrères du Monde l'article préparé pour son trépas. Cette histoire anecdotique, elle nous a remis en tête ce personnage singulier que fut Tapie justement. Alors plutôt que d'attendre qu'il nous quitte, on a eu envie de re-raconter dès à présent un peu de son parcours avec notre question rituelle. Qui êtes-vous, Bernard Tapie ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Bernard Tapie est avec nous par téléphone en direct. Bonjour Bernard Tapie, merci d'avoir accepté notre petit coup de fil. Je voulais d'abord vous poser une question. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu que cet article annonçait votre mort ?
Comment j'ai réagi ? On réagit avec en plaisantant, parce que bon, quand on se bat comme moi actuellement pour qu'elle n'arrive pas, si quelqu'un vous l'annonce alors qu'elle n'a pas encore eu lieu, il vaut mieux le prendre avec humour, quoi.
D'emblée, désamorçons un écueil évident. Non, cet épisode ne sera en rien exhaustif sur Tapie, car il faudrait plusieurs heures au minimum pour remonter le fil de toutes ses vies. Lui qui fut tout à la fois entrepreneur à succès, figure du sport français, politicien dur à suivre, client régulier des plateaux télé, prévenu, à répétition, jugé, condamné, incarcéré, comédien, chanteur, et j'en oublie sans doute. Donc, raconter Tapie en une vingtaine de minutes, c'est forcément faire des choix précis. En l'occurrence, parlons d'abord du sport, car c'est certainement l'un des traits saillants de son parcours. Je suis allé en discuter avec mon confrère Sébastien Tarago de l'équipe qui a tout récemment co-signé un documentaire consacré à Tapie baptisé La Franchie. J'ai commencé par lui demander comment dans les années 80 celui qu'on connaissait d'abord comme un businessman à succès, repreneur d'entreprises en difficulté, s'est retrouvé embarqué dans le monde du sport, dans le vélo tout d'abord avec l'équipe La Vie Claire.
Oui, alors c'est une bonne question pour trouver le déclencheur, mais c'était un sportif quelque part. Hein. Déjà lui, jeune, il avait envie de tout croquer. Clairement, il avait cette personnalité très vite, puisque, petite parenthèse, il refuse un rôle au cinéma déjà au début des années 70, alors qu'il n'est personne, entre guillemets. On lui propose de participer à L'Aventure, c'est l'aventure, qui deviendra un film culte pour une génération. Il refuse parce que finalement, le tournage est trop long. Il avait cette volonté d'aller un peu dans tous les univers. Finalement, il arrive en force dans le vélo. Il y a eu un passage dans le ski à travers ses affaires, mais c'est dans le vélo où il arrive en force, où sa personnalité s'intègre de manière assez brutale, et il révolutionne le vélo. En fait, il rachète, enfin, il monte une équipe en relançant Bernard Hinault, qui est sorti de la régie Renault, blessé. On dit que Bernard Hinault est fini, has-been. Lui le relance et il va gagner le Tour de France. Il va gagner le Tour de France avec Bernard Hinault, puis il va gagner le Tour de France avec Greg LeMond. Et écrire une partie de sa légende à travers des comportements qui étonneront parfois, qui agaceront, qui plairont aussi, puisqu'il va donner des grands salaires, enfin des salaires à la hauteur de l'investissement aux coureurs. Mais oui, voilà, il divise déjà très vite dans le sport à travers son expérience dans le cyclisme.
Il y a notamment un épisode qui reste un peu en mémoire, c'est une arrivée d'étape à l'Alpe d'Huez, je crois, où il force en gros ces deux stars, alors qui ne s'entendent plus très bien, Hino et Lemon, à passer l'arrivée ensemble.
Oui, c'est la montée de l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 1986. Pour vous résumer brièvement l'affaire, en 1985, cette équipe, la Vicklaire, fait venir Greg LeMond pour aider Bernard Hinault à gagner le Tour de France. Et en échange, on lui promet qu'en 1986, Bernard Hinault l'aidera à gagner à son tour le Tour de France. Bon, là, les avis divergent. C'est assez drôle. J'ai rencontré récemment et Bernard Hinault, et Greg LeMond, et Bernard Tapie. Et les trois ont des souvenirs très divergents, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour Greg LeMond, et je pense que sa parole n'est pas loin de la vérité, pour Greg LeMond, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, parce qu'en 86, finalement, Bernard Hinault est dans une forme qui lui permet peut-être d'espérer gagner encore le Tour. Et ça se passe très mal, il y a beaucoup de tensions. Mais effectivement, il y a cette arrivée mythique à l'Alpe d'Huez, main dans la main, rappelez-vous, les deux champions arrivent au sommet, main dans la main, et puis finalement, LeMond laisse gagner Bernard Hinault. Et oui, Bernard Tapie, très clairement, leur a dit que ce serait bien que ça se passe comme ça. C'était dangereux pour Greg LeMond éventuellement de monter tout seul, de lâcher Bernard Hinault parce qu'il y avait un public assez hostile. C'était symboliquement très fort pour Bernard Hinault qui passait pour le formidable grand coureur qui acceptait d'aider son nouveau coéquipier. Enfin bref, pour l'ego, comme me l'a dit Greg LeMond, c'était parfait pour tout le monde.
Il impose sa marque donc dans le monde du vélo, puis il va attaquer un autre secteur qui est celui du football, c'est celui pour lequel il est le plus connu d'ailleurs. Est-ce qu'il incarne d'une certaine manière l'émergence, l'éclatement du foot business de la fin des années 80, du début des années 90?
C'est une bonne question. Pour moi, le basculement du football, c'est l'arrêt Bosman.
Petite parenthèse pour préciser, l'arrêt Bosman, c'est une décision de justice européenne qui, en 95, a mis un terme au quota de joueurs étrangers autorisés dans les championnats nationaux et qui a eu pour conséquence de faire exploser les transferts et donc les prix et qui a changé drastiquement la face du football en Europe. Voilà, fin de la parenthèse.
Il y avait déjà le foot business. Le foot business existait, simplement, c'est une inflation permanente et depuis que Bernard Tapie n'est plus là, l'inflation continue. Ouais. Donc je ne suis pas sûr que ce soit Bernard Tapie qui ait créé cela. Après, en revanche, il arrive avec sa personnalité, se mélange alors très vite à Marseille des ambitions politiques. Il est extrêmement connu. Et rappelez-vous, encore une fois, il participe à des émissions de télé tous les trois jours. Il se fait inviter quand il veut à 7 sur 7, émission de très grande écoute à l'époque, présenté par Anne Sinclair sur TF1. Il est chez lui à TF1, pour être clair. C'est une personnalité absolument exceptionnelle, hors du commun, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il n'est pas bien, on veut en changer, on n'en change pas. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif, tu oublies le chronomètre. Tu vas courir dans l'absolu, mais surtout le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Je veux dire, il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est elle ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout.
Donc il arrive dans le football avec ce caractère et oui, très vite, là aussi, il va imposer sa marque parce qu'il est très présent, il est omniprésent. Travailler avec Bernard Tapie à l'époque, ça nécessite une hygiène de vie irréprochable parce que c'est les coups de fil à 23h, à minuit, à 1h, à 2h du matin. Ça n'arrêtait jamais. Jamais, jamais, jamais. Et en plus, il avait cette espèce de puissance physique, il dégageait quelque chose et il inspirait la peur. Donc lui-même n'avait peur de rien. Il n'hésitait pas à jouer un peu au gros bras, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il frappait les gens, hein, mais il y avait cette espèce d'intimidation permanente. Et donc, bien sûr, ça sera une période incroyable pour le football français, avec des très bons côtés et des côtés abominables, évidemment.
Ces côtés abominables, c'est donc les reproches qui sont maintenant très établis autour de cette gestion de l'ascension fulgurante, le retour en grâce de l'OM, qui était un club qui allait assez mal au moment où Tapie le reprend et qui devient le grand club du début des années 90, avec notamment une victoire en Ligue des Champions contre Milan. Qu'est-ce qu'on reproche au juste au club et à Tapie sur cette période?
Alors, on va commencer par les faits. Les faits établis, la corruption du match Valenciennes-Olympique de Marseille à 3 jours, 4 jours de la finale de la Ligue des Champions contre l'AC Milan. Ça a été établi par la justice française. Monsieur Bernard Tapie est allé en prison pour cela. Lui conteste aujourd'hui encore les faits. Mais ça, on peut établir les choses très clairement. Après, il faut faire attention, parce que ça s'appelle de la diffamation. Mais de nombreuses personnes ont témoigné contre Bernard Tapie et sur le fait que ce système de corruption était un petit peu généralisé. Là encore, il n'a jamais été condamné, il faut être prudent. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Parfois, forcément, ce n'est jamais établi, ce n'est jamais fondé. Mais il y a eu beaucoup de témoignages selon lesquels il y aurait eu un système de corruption généralisé. Après, c'est vrai que devant un juge, Jean-Pierre Bernès, son ancien bras droit, a un jour dit que c'était le cas. Après, qui dit la vérité, qui ne dit pas, je ne le sais pas. Ça n'a pas été établi par la justice française. Bernard Tapie, de son côté, il considère bien sûr que Jean-Pierre Bernès a dit tout cela pour ne pas être condamné. Et c'est vrai qu'il ne sera pas condamné à de la prison ferme à l'issue de ce procès.
Il y a une anecdote qu'on retrouve notamment dans votre documentaire sur Bernard Tapie qui illustre assez bien le côté un peu terrorisant qu'on évoquait à l'instant de Tapie. C'est on va dire que c'est la manière dont il a... Oula, on parle de foot et on se prend un ballon.
C'est bien, ça fait vivre,
ça fait vivre le podcast.
On est avec le foot amateur.
C'est la manière dont il a fait virer de TF1 un journaliste qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Dominique Grimaud.
Oui, c'est exact, et pour une raison absolument incroyable. Déjà, il n'y a aucune raison valable, bien sûr, mais c'est-à-dire que Dominique Grimaud réalise une interview de Jean-Pierre Papin qui dit « Je veux partir de l'Olympique de Marseille ». Bon, ça s'appelle un travail de journaliste. Il n'est pas responsable des propos de Jean-Pierre Papin. Mais Bernard Tapie considère qu'il est trahi par ce journaliste et il lui dit beaucoup de mots désagréables et finit par ajouter « Tu seras viré de TF1, je m'en occupe ». Et effectivement, quelques temps plus tard, Dominique Grimaud sera viré de TF1. Parce que Bernard Tapie ne reculait devant rien, n'avait peur de rien et avait un pouvoir incroyable dans la maison de TF1. Voilà, il était chez lui encore une fois.
Début de notre émission avec un invité très 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 célèbre, Bernard Tapie.
La Tapie-mania déferle sur la France.
C'est une star. Près d'un Français sur deux le voit ministre, près d'une femme sur deux partirait volontiers en vacances avec lui. Et pourtant, il n'est ni chanteur, ni comédien, ni homme politique, c'est un chef d'entreprise. Bernard Tapie, bonsoir.
Quand on parle de Tapie, il y a un nom qui revient systématiquement, c'est celui d'Adidas. C'est un peu l'incarnation de ce goût pour les affaires et de ce goût pour le sport, parce que c'est une marque emblématique du sport. C'était le grand projet de sa vie quelque part ?
Il a dit à l'époque que c'était le plus beau jour de sa vie, après son mariage, je crois, et la naissance de ses enfants. Peut-être était-il un peu excessif et dirait-il les choses autrement aujourd'hui, mais oui, c'était quelque chose de très important pour lui. Adidas, à l'époque, c'était, encore une fois, leader mondial des équipements sportifs. C'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, Adidas demeure très important, mais ça s'est un peu éparpillé avec une mondialisation, avec Nike, un concurrent et beaucoup d'autres. Mais je crois que si on s'en rappelle autant, c'est parce que Bernard Tapie, à cause de cette affaire, a eu des procès depuis 20 ans avec l'affaire du Crédit Lyonnais. Il fait la chronique judiciaire depuis 20 ans à cause de cette affaire. Donc je me demande quand même si on ne se rappelle pas autant de cet achat pour cette raison-là.
Quelle image il a, Tapie, aujourd'hui dans le monde du sport, vous qui fréquentez énormément les sportifs, les footballeurs, quelle image il a laissé ?
Ouais, c'est assez drôle. Les gens, la plupart des gens qui l'ont connu à l'époque, pour être clair, des pique-pendres en off de Bernard Tapie, considérant qu'il a eu un effet terrible sur le football et sur les mœurs du football de l'époque. Ceux qui ne l'ont pas connu, dans le milieu du football, je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Bah, qu'il l'apprécie. Ça paraît étonnant, mais sa personnalité fascinante demeure intacte auprès de certaines personnes qui ont 30, 40 ans. C'est assez étonnant de constater cela. J'ai eu à la suite de ce documentaire pas mal de témoignages de gens du milieu du foot qui avaient ce sentiment-là. Donc, il est très ambigu, Bernard Tapie, et il restera ambigu jusqu'au bout. Entre ce pouvoir de séduction absolument incroyable et puis ces méthodes qui sont pour le moins contestables.
Outre le sport et les déboires judiciaires à tiroir liés entre autres à la revente d'Adidas, l'un des points clés du parcours de Tapie reste son passage par la politique. On l'oublie parfois, mais il a été conseiller général, député deux fois dans les Bouches-du-Rhône, député européen et surtout ministre chargé de la ville pendant un peu plus de 4 mois au sein du gouvernement Bérégovoy sous la présidence de François Mitterrand. Ce dernier a toujours vanté les talents politiques de Tapie qui va notamment contribuer à mettre un coup d'arrêt à la carrière de Michel Rocard, le grand rival à gauche de Mitterrand en menant une liste concurrente à la sienne aux européennes de 94 où il fera près de 12%. Tapie politicien, on s'en souvient aussi pour ses affrontements légendaires avec le patron du Front National, Jean-Marie Le Pen.
Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez
non.
fort que
non,
vous arrivez...
poli,
mais
monsieur.
Je peux pas être
vous
poli
êtes sorti
avec
des
vous.
Bavons, on le sait,
oui.
Vous êtes poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler.
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
Aujourd'hui d'ailleurs, cette image de l'opposant intégral au FN est un peu remise en question par d'anciens proches de Tapie qui évoquent des arrangements discrets entre lui et le parti d'extrême droite pour gêner son adversaire de droite aux législatives. Bernard Tapie nie fermement tout accord, malgré donc les affirmations entre autres d'un de ses anciens collaborateurs très proches, Marc Frattani. Frattani fut notamment son assistant parlementaire. Il l'a longtemps défendu bec et ongle. Aujourd'hui les deux hommes sont fâchés. Son ancien lieutenant a donné dans un livre paru cette année qui s'appelle Le Mystificateur, sa version de ces trois décennies passées aux côtés de Tapie, une version largement rejetée par le principal intéressé. J'ai appelé Marc Frattani à Marseille pour lui demander notamment comment il s'était retrouvé en 88 embarqué dans l'aventure politique de Bernard Tapie.
Au moment où Tapie arrive à Marseille, en 88, pour la politique, il est totalement isolé politiquement. Il a le soutien du président de la République, mais il n'a pas de militants sur place, il n'a pas de personne à part les employés de l'OM qui sont une quinzaine, il n'a aucune organisation autour de lui, c'est un homme isolé. Et non seulement c'est un homme isolé, mais en plus c'est un homme qui n'a jamais fait de campagne électorale. Bon, et à Marseille, les campagnes électorales, il faut s'organiser. Et c'est dans ce contexte-là que je prends contact avec lui, que je lui propose de l'aider. Et ce qui se fait, je deviens donc naturellement son accompagnateur durant la campagne. Et comme ça fait 22 ans que je fais de la politique à Marseille, je suis en mesure, pas de le conseiller, mais d'analyser concrètement ce qui se passe politiquement au niveau de la ville.
Vous le mettez en contact avec du monde, vous avez beaucoup de relations à cette époque-là, enfin, et toujours aujourd'hui, mais ça fait, comme vous le dites, ça fait 22 ans que vous militez, donc vous connaissez le tissu marseillais par cœur. Vous le mettez en relation avec du monde ?
Oui, je le mets en relation, notamment avec des personnes. Enfin, il y a d'une part... un élu marseillais qui s'appelle Monsieur Charles Millelot, qui est député européen, et à Paris, les dirigeants du Parti Socialiste ont conseillé à Bernard Tapie de rentrer en contact avec Charles Millelot à Marseille, parce qu'il a, lui, des forces militantes. Donc, à ce moment-là, Charles Millelot est un ami. Je suis au contact des garçons de fer, Charles Millelot est un vieux de feriste. Donc, on est en contact, et c'est avec lui que l'on va préparer et mettre en place l'activité militante avec ses conseillers, ses militants à lui, dans la ville. Il y a surtout une chose à éviter, c'est que durant la campagne, aucun incident ne se passe. Et pour éviter qu'il y ait aucun incident, en accord avec Charles Millelot, qui les connaît, certaines personnes dont on dit qu'elles ne sont pas favorablement connues des services de police, interviennent afin que rien de violent ou de caractéristiques ne se passe pendant la campagne. Voilà les gens qui vont aider, dès son arrivée, Bernard Tapie à pouvoir faire une campagne sans incident et ensuite à pouvoir finalement, l'année plus tard, être élu député.
Parmi les faits saillants, on va dire, de cette campagne de 88, il y a ce qui se passe le 12 juin, juste avant l'ouverture du scrutin, quand il y a une bombe, un engin explosif qui explose devant la permanence de Tapie. À l'époque, on a dit que c'était une manière de faire peur aux candidats, de faire peur à ses électeurs. Ce n'est pas nécessairement la version que vous présentez aujourd'hui.
Non, mais il n'y a personne qui... Là, je peux vous assurer que durant toute la campagne de Bernard Tapie à Marseille, il n'y a eu aucun incident avec ses adversaires. Ni des confrontations, ni des problèmes de violence. La campagne s'est déroulée dans le calme le plus absolu. Tapie est allé où il voulait. Tapie a rencontré les gens qu'il désirait. Et jamais il n'y a eu de contestation. Par contre, il est exact, la veille du scrutin, sa permanence a été... C'était pas une bombe. Il y a eu, une petite explosion qui a dégradé la porte et qui a, balayé tout ce qui était à l'intérieur du local. Bon, ça a été rapidement remis en place, mais c'est vrai que cet incident n'a pas été un incident qui a été créé par ses adversaires, mais à la demande de Tapie lui-même, pour sensibiliser les électeurs indécis à aller venir voter pour lui, etc. Bon, mais c'est une chose qui n'a fait aucun dégât matériel, fait aucun dégât humain, qui a été dérisoire. Hein.
Est-ce que, malgré les liens qui sont distendus aujourd'hui entre vous, vous diriez que Bernard Tapie fait partie de l'histoire de Marseille?
Mais attendez, Bernard Tapie est une légende qui a été créée par les médias. Bernard Tapie, en communication, n'a pas d'équivalent en France. Donc, Bernard Tapie, par sa présence, par son sens de la communication, par son savoir-faire, est arrivé, et surtout par le football, est arrivé à avoir à Marseille une très grande popularité. Mais lorsque l'on fait l'analyse de ce que Bernard Tapie a réalisé par ses... En tant qu'homme politique, il ne reste rien de Bernard Tapie à Marseille. Bernard Tapie n'a jamais rien fait pour la ville de Marseille. Les Marseillais, les électeurs marseillais l'ont aidé à être élu, lui ont permis de devenir ministre, mais il n'a jamais rendu aux Marseillais ce qu'il leur doit. Tapie n'a rien fait politiquement à Marseille. Il ne subsiste rien de lui. Que des mirages. Alors, il faut bien comprendre une chose, et il faut d'ailleurs se lever de la tête deux choses. La première, c'est que Bernard Tapie s'occuper du football de Marseille pour rendre les Marseillais heureux. C'est une contre-vérité. Bernard Tapie s'est servi du football pour ses intérêts. Et quand en 88, Mitterrand lui demande de venir, il va se servir de deux fonds de commerce, il va avoir deux fonds de commerce. Le premier, c'est l'Olympique de Marseille. Hein, il faut que les supporters deviennent ses électeurs. Et pour ça, il faut que le club ait d'excellents résultats. Ça, c'est son premier fonds de commerce. C'est pour ça qu'il va tout entreprendre pour que le club ait de bons résultats. Et son deuxième fonds de commerce, ça va être la lutte contre le Front National. Mais il n'a jamais fait de politique pour défendre l'intérêt général à Marseille. Il n'a rien fait à Marseille. Il a fait de la politique uniquement pour défendre ses propres intérêts. Et quand Bernard Tapie se rapproche du pouvoir, il peut y avoir deux raisons pour ça. La première, pour satisfaire les affaires qu'il mène. Et la seconde, pour réduire ses déboires judiciaires. Voilà les deux raisons qui poussent Tapie à aller au contact du pouvoir et des présidents de la République. Mais à Marseille, encore une fois, ben je ne sais pas, je peux même vous poser la question à vous, qu'est-ce qui reste à Marseille de Bernard Tapie au niveau politique? Il ne reste rien.
Eh, Fomblard, j'ai rencard avec Nanar. Appelle les ch'tards, v'là Bruno Escobar.
Touchez mais pas coulé, merci de l'invitation.
Sur ce... On est en sursis.
De l'homme politique, peut-être pas, du businessman par contre. Il reste au moins le journal La Provence, l'un des quotidiens emblématiques de la ville dont Bernard Tapie, via son entreprise, est l'actionnaire majoritaire. Alors certes, la presse papier n'a plus la puissance d'antan, mais ça reste une bonne façon de garder quelque part un peu de pouvoir. Merci à Sébastien Tarago et Marc Frattani pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauriane Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.